Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire et Mémoire, une émission proposée par la Société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèque de Dreux. Je suis très heureux de vous retrouver puisque il y a peu de temps, nous avions consacré une émission autour de l'exposition sur les Métezeaux, une dynastie d'architectes de la Renaissance, une exposition qui a lieu au musée jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année 2019. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu particulier qui nous interpelle et qu'on avait envie de partager avec vous. Il s'agit à la fois d'une restauration de peinture du 19e siècle qui se trouve dans l'église Saint-Pierre, plus précisément dans la chapelle de la Vierge, qui est la chapelle tout au fond de l'église, et surtout d'une découverte. Mais je vous fais saliver un peu, je ne vous en dis pas davantage, car nous allons commencer par le commencement. Comme pour toute belle histoire, il y a un début. Et ce commencement, eh bien, c'est la nécessité de préserver un décor du 19e siècle, qui s'effritait dangereusement au fond de l'église, dans cette chapelle de la Vierge, et qui nous réservait, ça nous ne le savions pas encore, bien des surprises. Alors mon rôle en tant que conservateur du musée du patrimoine de la ville de Dreux, c'est bien évidemment de faire des recherches préalables à une restauration. Essayer de comprendre les décors que nous avons face à nous. Et bien entendu, de comprendre d'abord l'iconographie, ce qui est représenté, la thématique. Et cette thématique, bien, c'est deux thèmes, elle est double. C'est la transmission du rosaire et puis aussi la transmission du scapulaire au bienheureux Simon Stock. Alors, ces décors-là, ils ont été effectués probablement par un artiste qui s'appelle Pierre Chavassieux. On sait peu de choses de cet artiste, hormis qu'il est né en 1823 et qu'il est mort en 1896. Il est originaire de Vienne, alors pas en Autriche, Vienne en Isère. Et il est aussi l'apprenti d'un peintre plus célèbre que lui aujourd'hui, qui est Hippolyte Flandrin. Cet artiste-là, il est surtout l'auteur des décors de l'église Saint-Germain-des-Prés. Alors, il a cet élève, Pierre Chavassieux, et dans l'exercice de son métier, Pierre Chavassieux, il a principalement copié les portraits des souverains officiels qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans les administrations françaises. Pour vous donner un exemple, le portrait de Louis-Philippe, roi des Français, d'après un auteur plus prestigieux qui s'appelle Winterhalter, pour la mairie de Vienne. Et là, il se trouve que si cette œuvre lui est vraiment attribuée, celle qui est à l'église Saint-Pierre, eh bien c'est la seule, le seul décor qu'on lui connaisse. Cette œuvre-là, elle est celle d'une main confirmée dans le dessin perspectif et de la figure, dont l'inspiration est sûrement à trouver d'ailleurs à la fin du Quattrocento ou du début du Cinquecento italien. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un qui est très important, qui est à mes côtés aujourd'hui. Et je suis très heureux de l'avoir à côté de moi. Il s'agit de Lydie Patonnier. Lydie Patonnier, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît.
Donc, je suis restauratrice de peinture murale depuis aujourd'hui 19 ans. J'ai travaillé pour la société Arcoa, à la tête de qui se trouve monsieur Jean-Sylvain Fourquet. J'ai un master 2 en art, au cours duquel j'ai fait un stage en restauration. Et à la sortie de l'école et de l'obtention de mes diplômes, j'ai travaillé pour la société Arcoa, que je n'ai pas quitté. Et au terme de ces 18 années passées auprès de M. Fourquet et de cette société, avec une formation interne à l'atelier, un stage en Italie pendant ces années-là également, je me suis mise à mon compte pour explorer peut-être une nouvelle aventure. Et donc sur ce chantier où je suis indépendante, je travaille pour la société Arcoa à nouveau, qui a eu le marché et qui a fait appel à moi en sous-traitance pour effectuer les travaux.
Lydie, c'est passionnant. Et alors justement, j'aimerais savoir ce qui vous conduit à Dreux là. Quel est ce chantier? Quelle était la commande de la ville de Dreux? Quels travaux on vous a demandé de faire?
Alors il s'agissait d'une commande de conservation en restauration des décors peints, du mur nord et du mur sud, que vous avez évoqué tout à l'heure, ainsi que des statuaires et des dés qui se trouvent. Un dé, c'est une petite architecture qui se trouve au-dessus de chaque statuaire. Donc mon travail consiste à conserver et restaurer ces deux peintures murales et ces deux statuaires.
Alors, vous avez fait une très belle découverte, et pour notre joie à tous, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette découverte?
Alors, en effet, j'ai commencé en novembre, où j'ai eu une phase de diagnostic qui a duré un mois, où je relevais les pathologies des couches picturales, et notamment la couche picturale sud, qui a été très endommagée par les infiltrations d'eau en extérieur, au niveau des gargouilles qui étaient défectueuses. Donc les infiltrations d'eau ont emmené et ont drainé beaucoup de sel et de remontées salines, ce qui a fait que la couche picturale s'est soulevée, a été poussée petit à petit, et beaucoup de lacunes ont été présentes car les infiltrations d'eau ont emmené des pathologies très graves qui ont aujourd'hui apporté énormément de pertes de matière. Donc j'ai relevé toutes ces pathologies, j'ai fait des tests de solubilité des pigments, pas mal de relevés. J'ai également fait des constats d'état. Et il y a une phase d'observation durant laquelle j'ai pu constater des fragments de polychromie sous-jacentes. Ensuite, le chantier s'est arrêté pendant 2 mois. Et à mon retour, j'ai commencé la phase de conservation, c'est-à-dire un nettoyage, un dépoussiérage. J'ai pu constater que les fragments subsistants de décors étaient extrêmement fragilisés. Et de ce fait, je ne pouvais pas les toucher directement avec mes pinceaux, avec mes imprégnations de résine, mais toutes les injections de coulis ou de résine que je pouvais faire étaient impossibles. J'ai donc dû travailler au travers de compresses. Ça a été une phase très importante de conservation parce que tout était très très abîmé et prêt à tomber. Après quoi, après cette phase de conservation et de consolidation d'urgence, j'ai pu observer un peu plus profondément ces décors sous-jacents. Et à l'aide d'une loupe binoculaire qui me permet d'avoir des loupes grossissantes qui me permettent d'avoir vraiment un œil très précis et affûté, j'ai agrandi quelques sondages, et notamment un précisément, où très curieusement, je me suis approchée d'un détail qui s'apparentait à un œil. J'ai donc poursuivi mon sondage. Un sondage, c'est une fenêtre que l'on va ouvrir à l'aide d'un bistouri pour enlever les strates de couches picturales et d'enduit fin qui vous permettent de pouvoir constater ce qui se passe derrière une couche. En général, on fait des sondages stratigraphiques, on enlève strate par strate et on va jusqu'au support pour être sûr d'avoir la couche originelle. Donc, j'ai dû enlever une partie du décor 19e avec parcimonie. Et j'ai constaté en effet qu'il s'agissait bien d'un œil, et en poursuivant mon sondage, j'agrandissais mon sondage à l'aide de mon bistouri, je découvrais un œil, puis un sourcil, un nez, et là je réalisais qu'effectivement j'étais en présence d'un décor qui semblait assez somptueux.
Waouh ! Quel a été votre sentiment à ce moment-là ? Est-ce que vous étiez émue ?
Alors on a toujours une grande émotion parce que c'est un métier de passion. Et donc, on se retrouve seul face à ce mur, en présence de 2 décors. Et la découverte de cette scène historiée m'a amené à me dire qu'il y avait vraiment une richesse sous ce décor 19e.
Alors justement, vous parlez de scène historiée, ça veut bien dire qu'il y a une histoire qui est racontée. Racontez-nous un peu la chose, qu'est-ce que vous avez vu en premier lieu ?
Alors en premier lieu, donc, ce visage qui était donc un vieillard du fait de détails que je pouvais relever. En accord avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, j'ai agrandi ce sondage. J'ai donc découvert ce vieillard qui semblait porter une couronne ou une mitre. Le sondage ne me permettait pas de pouvoir en déceler davantage. Et en arrière-plan, une main. Et en premier plan, une main aussi, mais plus petite. Donc au niveau des proportions, tout paraissait un peu confus. Je me suis arrêtée à cette taille de sondage. Et encore une fois, après consultation, on m'a demandé d'agrandir ce sondage. Au départ, je pensais qu'il s'agissait des rois mages, de l'arrivée des rois mages et de la présentation de l'enfant Jésus aux rois mages. Après agrandissement encore un peu plus de ce sondage, j'ai pu constater que l'enfant Jésus était présent. La petite main qui était en premier plan était la main de l'enfant Jésus. J'ai supposé qu'il s'agissait peut-être d'une autre scène historiée, car l'enfant Jésus était nu. J'apercevais sa peau par rapport à la polychromie qu'il y avait en face de moi. Et du fait que l'enfant Jésus soit nu, je me suis dit, c'est peut-être la circoncision. Après quoi, j'ai poursuivi, et je me rendais compte que ce vieillard tendait les mains vers l'enfant Jésus, et que sans doute un cierge était présent. Et par rapport à l'iconographie, j'ai pu supposer qu'il s'agissait finalement de la présentation au temple de l'enfant Jésus, après la circoncision, et qu'il s'agissait finalement de ce vieillard qui était Saint Siméon, le grand prêtre, qu'il n'avait pas une couronne, mais une mitre sur la tête.
Tout à fait. Alors justement, très vite, en effet, on est venu nous confirmer ça, dans le sens où il y avait aussi le visage de Marie qui apparaissait. hein, à la droite de l'enfant Jésus.
Voilà, tout à fait. Disons que le sondage était terminé et de mon propre chef, j'ai fait un dernier sondage. Car je, connaissant la scène historiée, il manquait la Vierge et Saint Joseph. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce sondage dans une partie lacunaire où le décor était déjà, où le décor était déjà tombé. À cet endroit-là, j'ai pu découvrir le visage de la Vierge. Cette couche picturale du XVIe est recouverte de la couche XIXe, mais entre ces deux couches, il y a une petite couche fine blanche qui obstruait la lecture. Et cette petite couche fine était toujours sur le visage de la Vierge, que je n'avais pas enlevée. Et en vaporisant avec de l'eau déminéralisée, ça vous permet de faire remonter les couleurs. Le visage de la Vierge est apparu.
Une apparition. C'est formidable.
Tout à fait.
Et ça, c'est vraiment les belles choses du métier. Parce que ça arrive sûrement, souvent d'ailleurs, hein, on appelle ça, comme en littérature d'ailleurs, un palimpseste. Alors c'est un nouveau mot pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je vais quand même l'expliquer. Un palimpseste, vous savez, en littérature, ce sont les parchemins dont on a recouvert ou effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Et là, c'est la même chose pour un décor. C'est-à-dire que sous un décor, il y a un décor qu'on appelle d'ailleurs, et que vous avez caractérisé comme tel, de façon très juste, un décor sous-jacent. Et celui-ci est quand même en relatif bon état, d'après ce qu'on peut observer.
Il est en très bon état. Il y a des zones lacunaires, il y a quelques écaillages, mais il est effectivement en très bon état et de très belles factures. On peut distinguer des détails très précis, notamment au niveau de la moustache, des cheveux, des sourcils. On voit des petits traits très fins. Il y a des détails qui sont vraiment... vraiment somptueux. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir pu mettre au jour ce fragment et de pouvoir constater la qualité de ce décor.
Ça vous est déjà arrivé, ça, dans votre carrière, de découvrir un décor sous le décor ?
Oui, ça nous arrive. Je ne dirais pas souvent, mais ça m'est arrivé en 20 ans d'expérience. Oui, j'ai rencontré ça plusieurs fois dans ma carrière. Et c'est des surprises qui sont étonnantes. Ne serait-ce qu'arriver dans une église recouverte d'un badigeon blanc ou d'un enduit, dans lequel on doit faire une étude et un diagnostic, en faisant effectivement un travail de sondage et d'ouverture de fenêtres stratigraphiques, on découvre des choses et c'est chaque fois une émotion assez grande.
Et oui, en effet, c'est une émotion pour nous aussi aujourd'hui. J'aimerais revenir sur le sujet, parce que le thème que vous avez décrit, dépeint même, si je peux utiliser ce terme, ma foi, très approprié, c'est celui de la présentation de Jésus au Temple. J'aimerais revenir sur ce thème pour expliquer à nos auditeurs ce qu'il est. C'est un événement de la vie de Jésus, qui est relaté par l'évangile de Luc, et en effet, suivant une prescription de la loi juive, Je cite dans l'Exode, de la Bible toujours, mais dans l'Ancien Testament, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur ». Donc, les parents de Jésus sont allés présenter cet enfant au temple de Jérusalem, et il est reçu d'ailleurs par ce fameux vieillard Siméon. Alors, il y a une fête chrétienne qui est associée, et ça parle bien aux enfants, c'est la fête de la chandeleur, hein, qui rappelle les chandelles, qui rappelle la lumière aussi. D'où, effectivement, la présence de cierges sur cette peinture dont vous nous parlez. C'est une fête qui est célébrée, pour précision utile, le 2 février dans le calendrier grégorien. Et Siméon, lui, il avait été averti par le Saint-Esprit, comme en songe, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le petit Jésus. Et au moment de sa rencontre avec Jésus, il chante. C'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'il chante un cantique d'action de grâce, aujourd'hui d'ailleurs connu sous le nom de Nunc Dimittis. Allez, je vous donne quelques mots de ce chant quand même, qui rend la chose très joyeuse. « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Siméon peut alors mourir en paix. La présentation au temple, c'est un thème qui est récurrent de l'iconographie religieuse, aussi bien en peinture qu'en enluminure, en sculpture, sur les vitraux, les tapisseries et bien sûr dans les décors comme c'est le cas présent. Il y a des œuvres antérieures à notre peinture, hein, au Moyen-Âge, mais bien sûr aussi au début de la Renaissance, Anselm le Jeune réalise une très belle présentation au temple qui est conservée à la Kunsthalle de Hambourg. Mon préféré, je dirais, c'est peut-être celui du Carpaccio qui date de 1510 et qui est conservé à la Galerie de l'Académie à Venise. C'est l'un des plus beaux pour moi parce qu'il est sur un fond d'architecture en forme de rotonde et puis sur les marches à l'avant, il y a trois anges musiciens, trois petits anges musiciens qui rappellent le cantique de Siméon. Et les visages des différents protagonistes de cette scène forment une sorte de ruban qui occupe toute la largeur du tableau. Et ensuite, on va retrouver dans le XVIIe siècle français, notamment, une présentation au temple chez Simon Vouet, vers 1640, conservée au musée du Louvre, ou encore, toujours, une magnifique présentation au temple par Philippe de Champaigne, en 1648, conservée au musée royal de Belgique à Bruxelles. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse des décors de Dreux, hein, de ce décor, je dirais, présupposé, comme ça, à première vue, du XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique de ces décors? Parce que, depuis le début, on parle de peinture, de façon très appropriée d'ailleurs, parce qu'on pourrait parler de fresques, mais de façon abusive. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre ces deux techniques de la peinture à secco, si on veut vraiment utiliser le terme approprié, et de la peinture à fresco, c'est-à-dire à fresque?
Alors en effet, il y a une différence importante, car la fresque est une technique. On utilise à mauvais escient ce terme de fresque pour parler des peintures murales. Il faut savoir que la fresque est une technique où l'on peint dans le frais, c'est-à-dire que vous tirez votre enduit, et avant que l'enduit, avant que la chaux, on dit carbonate, et emprisonne les pigments, on passe les jus pour créer le dessin, la peinture, pour créer le motif, la scène historiée. Et alors que l'enduit sèche, il emprisonne les pigments. Et à ce moment-là, on peut parler de fresque, parce qu'on peint dans le frais.
Du coup, on ne peut pas parler de fresque pour ces fameuses peintures.
En effet, il ne s'agit pas de fresque, mais de peinture murale. C'est pour ça que dans mes échanges avec le public, les gens de la paroisse ou les gens qui passent, qui parfois m'interpellent, je parle bien entendu de peinture murale et non pas de fresques. Il y a peu de fresques en France, il y en a beaucoup en Italie. J'ai pu restaurer dernièrement la cathédrale d'Orange des peintures murales qui étaient recouvertes d'une peinture à l'huile et qui étaient peintes à semi-fresque. On sentait que nous avions pu enlever cette peinture à l'huile parce que justement en dessous nous avions une fresque et la résistance de cette fresque nous a permis de la découvrir.
Maintenant, moi, je vais parler, je dirais, de la partie qui me concerne un peu plus. C'est celle de la datation, du style. Est-ce que cette peinture peut s'inscrire dans la lignée d'autres peintures effectuées précédemment dans l'histoire de l'art? Alors, c'est tout à fait difficile à dire parce qu'en fait, comme on l'a déjà souligné, on n'a dégagé qu'une infime parcelle d'un plus vaste ensemble. Mais tout de même, je vais me permettre aujourd'hui, par anticipation, de vous livrer une première intuition. Parce qu'il faut toujours peut-être d'ailleurs se fier à cette première intuition. Et puis ensuite, elle sera confirmée ou infirmée. Alors, à mon sens, l'œuvre qui a été découverte peut être datée des années 1570-1580. Ce sentiment, il naît d'abord du fait qu'à cette période-là, il y a un renouveau économique dans la cité drouaise et que l'église Saint-Pierre est consolidée à ce moment-là. Il y a une reprise de la construction de l'édifice. Et rappelons-nous justement, lors de l'émission précédente, cette intervention de l'architecte Jean Métezeau à la Tour Saint-Jean, une intervention qui date de l'année 1576, mais aussi au bras sud de Transept, pour des travaux qui sont probablement terminés vers 1585. Donc on est vraiment justement dans une dynamique, dans un renouveau, dans laquelle, à mon sens, ces peintures peuvent s'inscrire. Alors, on est là à la fin de la Renaissance française, et on peut dire que notre peinture, elle se situe dans cette ère stylistique de l'école de Fontainebleau. Alors l'école de Fontainebleau, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Toujours est-il que c'est un fait historique. En 1526, François Ier revient de ses batailles de la péninsule italienne. Il a vu très belles choses là-bas et donc il appelle des artistes de ces régions de l'Italie pour embellir son palais de Fontainebleau. Et il crée ainsi de ses voeux une sorte de nouvelle Rome avec un cercle intellectuel et artistique influent. Le premier artiste qu'il appelle en France à ses côtés, c'est Rosso Fiorentino en 1530, et lui-même, Rosso Fiorentino, demande à être accompagné, suivi par un autre artiste qui est beaucoup mieux connu aujourd'hui par un large public, c'est le Primatis. Il le rejoint 2 ans plus tard en France, en 1532. Et même plus tard encore, on a un autre artiste qui s'appelle Niccolò dell'Abate en 1540. Alors, ces artistes, ils ont une influence considérable sur leurs homologues français. Et à Dreux, on peut constater quand même qu'il y a un style. Le corps des protagonistes, que l'on devine, semble un peu raide, mais la gestuelle en soi, les bras de l'enfant Jésus notamment, tendus de façon très expressive vers le vieillard Siméon, rappellent vraiment le maniérisme italien. Et en particulier, ce qui va nous permettre de rejoindre l'école de Fontainebleau, c'est le traitement des yeux, de couleur claire, des différents personnages, encore une fois, et en particulier de l'enfant Jésus, dont on a souligné la pupille circulaire. Et puis là, de beaux petits cheveux blonds qui font penser à certaines œuvres de nos artistes italiens, Belli Fontin. Ça me semble ici, en effet, les indices d'une expression relativement tardive de l'école de Fontainebleau, qui survit, en effet, parfois d'une façon très archaïque jusqu'à la fin du XVIe siècle. Je pense à l'exemple du château d'Oiron, par exemple, où il y a une très belle galerie réalisée dans les années 1540-1550. Mais encore une fois, et je tiens vraiment à le préciser aujourd'hui, je vous livre un premier sentiment, une intuition, surtout qui va nous permettre de nous rapprocher de l'expertise donnée par les conservateurs du Louvre, par exemple, mais aussi des conservateurs des monuments historiques, des antiquités et objets d'art. Vous savez, un travail d'attribution, c'est toujours le travail d'une collaboration, d'un ensemble de personnes qui vont confronter des idées jusqu'à arriver à une conclusion, qui elle-même ne sera jamais vraiment abouti tant qu'on n'aura pas une trace archivistique et qui pourra être remise en question par les générations futures d'historiens de l'art. Et c'est ça l'histoire de l'art, et c'est ça qui est beau parce que ça avance avec le temps. Alors, je dirais, aujourd'hui, on en est là. On se pose évidemment des questions. Une question fondamentale, chère Lydie.
Oui, bien sûr.
Cette question fondamentale, c'est... Oui, oui. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire avec ces belles peintures du XVIe siècle ? Je rappelle que ce qui nous a conduit à intervenir à cet endroit précisément de l'église, c'est la détérioration cet ensemble de décors du XIXe siècle, qui constitue quand même un ensemble cohérent, un ensemble bien identifié hein, autour de la vie de la Vierge et de la transmission du rosaire, du scapulaire. Vous voulez intervenir, Lily ?
Oui, je voulais préciser que ce qui m'a permis de faire ce dégagement et donc de détériorer le XIXe siècle pour découvrir une partie du XVIe siècle était bien situé car il était situé au niveau du piédestal de la Vierge, donc un ton uni. Et en aucun cas, je me serais permise et nous serions permis de faire un sondage au niveau des personnages, des drapés. Donc c'était encore une fois une chance, j'ai envie de dire. Car la déontologie est importante à ce moment-là, on détériore le 19e pour découvrir le 16e. C'est des choses qui ne se font pas vraiment, mais pour l'histoire et pour comprendre, on a effectué ce sondage et vraiment placé à cet endroit précis, parce que c'est un choix difficile à faire.
Oui.
En tant que restauratrice, enlever une couche picturale pour en montrer une autre, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Il faut faire preuve de sagesse. Et il en a fallu parce que le sondage aurait pu être agrandi encore, mais nous avions suffisamment d'éléments pour situer cette scène historiée et il n'était pas question d'aller plus loin au détriment de la couche 19e.
Alors il existe trois options et nous allons devoir en retenir une. C'est un choix cornélien. Hein. C'est donc une option qui, encore une fois, se fait dans la concertation avec les services de l'État, particulièrement la direction régionale des affaires culturelles, les conservateurs des monuments historiques, parce que je rappelle que l'église Saint-Pierre est classée au monument historique depuis le milieu du XIXe siècle. Alors, parmi ces options, il y a d'abord celle de dégager la totalité de la peinture du XVIe siècle, c'est-à-dire faire disparaître la peinture du XIXe siècle. C'est une option qui ne me paraît pas acceptable. Et à Lydie Patonnier non plus. Il y a aussi, en effet, l'option de laisser une fenêtre ouverte sur la partie actuellement dégagée, et elle seule, là je dirais qu'on perdrait l'intégrité de ce décor, de cet ensemble cohérent du XIXe siècle. Ça n'est peut-être pas souhaitable non plus. Et enfin, la troisième option, eh bien, recouvrir la peinture du XVIe siècle, comme on fait d'ailleurs après une fouille archéologique. Vous savez, quand on est sur un chantier archéologique, on enlève la terre et on découvre des choses. Et puis pour protéger du temps, de la pluie par exemple, de l'érosion, ce que l'on a découvert, on recouvre. Voilà, donc ça peut nous permettre par exemple d'attendre l'apparition de nouvelles techniques d'analyse non-invasives et qui n'existent pas encore pour les décors. Alors certes c'est douloureux, mais c'est probablement la voie de la raison. Bon alors Lydie, on se revoit ?
Oui, tout à fait. Je poursuis aujourd'hui le chantier, je suis ravie de pouvoir participer à cette belle aventure.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.